Chapitre 43. Cloner un disque dur. Göran Stone adresse un sourire à Yonalina avant d'ouvrir une enveloppe et de faire glisser dans sa main la clé qu'elle contenait. Saga Bauer se tient tête baissée près de l'ascenseur. Tous trois viennent d'arriver devant la porte d'entrée de l'appartement de Karl Palmkrona, au 2 Greve Gatan. «
Nos techniciens arrivent demain, » dit Göran.
« Tu sais à quelle heure ?»
demande Yona.
« À quelle heure, Saga ?» demande Göran.
« Je pense qu'on... »«
Tu penses ?»
l'interrompt-il.
« Tu es censé connaître l'heure exacte. »«
10 heures, »
répond-elle à voix basse.
« Et tu leur as bien dit que je demande personnellement qu'ils commencent par l'informatique et la téléphonie. »«
Oui, j'ai dit que... »
Lorsqu'il entend la sonnerie de son téléphone, Göran fait un geste de la main pour la faire taire. Il décroche et descend l'escalier de quelques marches, puis s'arrête au niveau du renfoncement de la fenêtre aux vitres roussâtres pour parler. Yona se retourne et s'adresse à Saga en baissant la voix.
« C'est toi qui dirige l'enquête préliminaire, non ?»
Saga secoue la tête.
« Que s'est-il passé ?»«
Je ne sais pas, » dit-elle d'une voix lasse. « C'est toujours pareil, ça ne relève même pas du domaine d'expertise de Göran. Il n'a jamais travaillé sur l'antiterrorisme. »
« Tu comptes faire quoi ?»«
Il n'y a rien, là. »
Elle se tait lorsque Göran Stone termine sa conversation et les rejoint.
« La clé !»
dit-elle d'une voix déterminée en tendant la main.
« Quoi ?»«
C'est moi qui suis chargé de l'enquête préliminaire. »«
Tu entends ça ?» dit Göran à Yona en riant.
« Je n'ai rien contre toi, Göran, » dit Yona. « Mais je sors d'une réunion avec nos supérieurs respectifs au cours de laquelle j'ai accepté de travailler avec Saga Bauer. »«
Elle peut venir ?» s'empresse-t-il de répondre.
« En tant que responsable de l'enquête préliminaire, » dit Saga.
« Vous voulez vous débarrasser de moi ? C'est quoi cette histoire, merde ?»
dit Göran Stone avec un sourire à la fois étonné et indigné.
« Tu peux venir si tu veux, » répond calmement Yona.
Saga prend la clé de la main de Göran.
« J'appelle Werner sur le champ. »
Göran descend l'escalier en parlant avec son chef d'une voix de plus en plus forte jusqu'à ce qu'il crie
« Bande de poufias !»
Ces mots résonnent dans la cage d'escalier. Saga réprime un sourire, se ressaisit et ouvre la lourde porte de l'appartement. La police avait écarté tout soupçon de meurtre et le périmètre de sécurité a été levé. L'enquête préliminaire a été classée aussitôt que le rapport d'autopsie de Nils Ohlen a démontré point par point que les suppositions de Yonalina étaient fondées. Karl Palmkrona avait mis fin à ses jours en se pendant avec un fil à linge dont le nœud coulant était fixé à un crochet au plafond. Les recherches scientifiques sur la scène du crime ont été interrompues et les prélèvements qui avaient été envoyés au laboratoire gouvernemental de la police technique et scientifique de Linköping n'ont jamais été analysés. Mais un élément est venu changer la donne. Björn Almskog a envoyé un email à Palmkrona la veille de sa mort. Et dans la soirée, Viola Fernandez a été assassinée sur un bateau appartenant à Björn Almskog. Il constitue un lien entre les deux décès. Si le bateau avait coulé, ils auraient été respectivement classés suicide et accident, sans qu'aucun lien entre ces deux morts ne soit jamais révélé. Saga et Yona entrent dans le vestibule et constatent qu'il n'y a pas eu de courrier. Une odeur de savon noir flotte dans l'air. Ils traversent une à une les pièces spacieuses. La lumière du soleil pénètre dans l'appartement par de grandes fenêtres. Le toit en tôle rouge de l'immeuble situé de l'autre côté de Greve Gatan scintille. Depuis l'oriel, on peut contempler l'eau étincelante du Nibroviken. Les plaques de cheminement des techniciens ont disparu et le sol sous le crochet du lustre a été nettoyé. Le parquet grince sous leurs pas lents. Étrangement, il est impossible de soupçonner qu'un cadavre a été retrouvé à peine quelques jours auparavant dans cette même pièce. L'endroit ne paraît pas inhabité. Yona et Saga ont la même sensation. Les grandes pièces quasi vides sont baignées d'un silence paisible.
« Elle y vient toujours !» dit soudain Saga.
Exactement, enchaîne Yona en lui adressant un sourire. La femme de ménage est venue ranger, aérer, prendre le courrier, faire les lits, etc.
Ce comportement n'a rien d'inhabituel. Une personne confrontée à une mort subite refuse parfois d'admettre que sa vie a changé et conserve les mêmes habitudes. La sonnette retentit. Avec une vague inquiétude, Saga suit Yona jusqu'au vestibule. La porte d'entrée s'ouvre sur un homme à la tête rasée, vêtu d'un survêtement noir trop grand pour lui.
« Yona m'a dit de balancer mon hamburger et de me ramener illico », dit Johan.
« Voici Johan Jönsson de l'informatique », explique Yona.
« Yona était au Vualang »,
dit Johan avec un accent finlandais exagéré.
« Le route a tourné, mais pas Yona. »
« Saga Bauer est inspectrice à la CEPO », dit Yona.
« On va papoter ou posser, dit ?»
poursuit Johan Jönsson en continuant d'imiter l'accent finlandais.
« Arrêtez avec ça !» dit Saga. « On doit fouiller dans l'ordinateur de Palmkrona, » dit Yona. « Ça va prendre combien de temps ?»
Il se dirige vers le bureau.
« Il sera utilisé en tant que pièce à conviction ?»
demande Johan Jönsson.
« Oui. Donc vous voulez que je clone le disque dur ?»«
Ça va prendre combien de temps ?» répète Yona.
« Tu auras le temps de raconter quelques blagues à la CEPO ?»
répond-il sans bouger.
« C'est quoi votre problème ?»
dit Saga agacé.
« Puis-je vous demander si vous avez un petit ami ?»
avance Jönsson avec un sourire gêné. Elle le fixe dans les yeux et hoche la tête d'un air sérieux. Il détourne le regard, bredouille quelques mots et disparaît dans le bureau de Palmkrona. Yona emprunte une paire de gants à Saga pour examiner les différentes lettres dans le bac destiné au courrier, mais aucune n'attire particulièrement son attention. Ce sont quelques lettres de la banque et de son expert comptable, des informations envoyées par le Regeringskansliet, des résultats d'analyse d'un rhumatologue spécialiste du dos et un procès-verbal rendant compte des votes du printemps du syndic de l'immeuble. Il retourne dans la pièce d'où provenait de la musique lorsque le corps de Palmkrona a été retrouvé. Yona s'installe dans un des canapés Karl Malmsten et passe délicatement sa main devant la chaîne stéréo. Les enceintes diffusent aussitôt la musique d'un violon. C'est en véritable virtuose que le musicien joue une mélodie légère sur un registre très aigu. Yona consulte sa montre, laisse Saga près de la chaîne stéréo et se dirige vers le bureau de Palmkrona. Johan Jönsson n'y est pas. Il est installé à la table de la cuisine devant son ordinateur portable.
« Ça s'est bien passé ?»
demande Yona.
« Quoi ?»«
Tu as réussi à cloner le disque dur de Palmkrona ?»«
Bien sûr,
un clonage parfait. »
Yona contourne la table et regarde sur l'écran.
« Tu peux accéder à sa boîte mail ?»
Johan Jönsson ouvre l'application.
« Tada ! » !»«
Regarde la correspondance de cette dernière semaine. »
On commence dans la boîte de réception ?
Oui, c'est ça, c'est ça.
Tu crois que Saga m'aime bien ?
Demande soudain Johan Jönsson.
Non.
Qui aime bien châtie bien.
Tu n'as qu'à essayer de lui tirer les cheveux,
répond Yona en désignant l'écran. Johan Jönsson, le sourire aux lèvres, ouvre la boîte de réception.
Jackpot !
Yona repère trois courriers de moufette@hotmail.com.
« Ouvre-les !»
chuchote Yona. Johan Jönsson sélectionne le premier et le courrier de Björn Almskog s'affiche aussitôt à l'écran.
« Jésus-Christ Superstar !»
chuchote Johan en s'écartant de son ordinateur.